Je réponds par commentaire audio parce que ça va être trop long de répondre surtout à toutes tes questions, Karl. Je me rends compte que ce forum, j'ai vraiment peu de temps pour venir et que plus le temps va passer, moins j'aurai le temps pour répondre à une tripotée de questions comme ça. Alors là, ça correspond à la gamme de direct où je vais amener des réponses, mais ne m'en voulez pas si je ne réponds pas à toutes vos questions. Le forum, il est plus là pour vous parce que sinon, je suis dépassé, quoi, tout simplement. Et du coup, je préfère mettre mon énergie dans la création de formation ou dans le suivi ou dans les stages et tout. Mais quand même, pour répondre rapidement à tes questions, t'en as fait un paquet. Peux-tu nous faire un petit peu l'historique de ce projet? Comment ça m'est venu à l'esprit, c'est que ça me gonfle de travailler avec les fabricants de didgeridoo me saoulent. Et en fait, j'ai l'impression de jamais être compris par les fabricants. Et donc, du coup, j'ai décidé de lancer ma propre gamme de didge parce que je me suis dit, bon, bah, au moins, ce sera plus simple. Et j'ai rencontré ce luthier qui habitait en bas de chez moi à la Croix-Rousse et qui fabriquait des cordes des Alpes. Et donc, du coup, c'était l'occasion de lui demander les didgeridoo. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on s'est dit qu'on allait lancer une gamme. Qu'est-ce qui me motive? Ben, en fait, ce qui me motive, c'est que je peux faire vraiment les didgeridoo que je veux. Et que je peux dessiner vraiment les instruments que je veux, que je peux commencer à comprendre. En fait, ce qui me motive vraiment au fond, c'est que et ça, ces petits messages pour les fabricants, je ne sais pas s'il y en a qui écouteront ce message-là, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qu'ont compris les fabricants et qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. Et les fabricants ont peur de donner leurs trucs et astuces. Et donc, quand tu discutes avec eux, ce n'est pas précis. Et souvent, ça me gonfle, donc, parce que je ne sais pas si ce n'est pas précis parce qu'ils ont peur de donner des trucs ou parce qu'ils ne savent pas vraiment avec précision. Et donc moi j'ai envie de comprendre en fait la conception du didgeridoo, la fabrication moins, le process de fabrication, ça, moi je suis moins là-dedans parce que ça me prendrait trop de temps. Même si c'est agréable de fabriquer avec ses mains, moi j'ai envie de concevoir le didge et de comprendre vraiment concrètement en fait qu'est-ce que ça fait sur les fréquences, la courbe des harmoniques, qu'est-ce que ça fait sur les pics d'impédance, si je fais ça, ça, ça et ça. Il y a certainement des fabricants qu'on cherchait, c'est même pas certainement, c'est sûr, il y en a. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui est diffusé. Et donc, j'ai envie de trouver ces grandes lois et ensuite les diffuser. Voilà. Pour que, en fait, la fabrication de didge soit plus un mystère et qu'on arrête de faire tout un pataquès autour de ce truc-là. Donc, c'est ça qui me motive. Et tu peux certainement sentir un peu mon agacement parce que vraiment, ça m'agace. Le monde de fabrication du didgeridoo, je trouve que c'est un peu particulier. S'il y a des fabricants qui m'écoutent, évidemment que j'ai rien individuellement parlant. Hein, c'est l'ensemble, en fait, ce que ça donne et tout. Je comprends même pas pourquoi pourquoi les connaissances n'est pas diffusées. Ça a une tendance à m'agacer. Donc voilà, je trouve ça trop bête quoi, de ne pas diffuser de la connaissance. De peur qu'on te pique cette idée ou de peur qu'on fasse mieux. Mais en fait, personne ne peut faire mieux que l'autre, quoi. Tout le monde fait juste ce qu'il a à faire lui. Et donc, du coup, il n'y a pas à avoir peur de ça. Donc, voilà, mon idée, c'est de créer toute une gamme, chercher toutes les grandes lois, comme j'ai fait avec la technique du didgeridoo, mais là, avec la fabrication. Et ensuite, les diffuser, soit en écrivant, je pense, en écrivant un e-book, et puis le diffuser, quoi. Voilà. Et que ce soit accessible, hein, que ce soit pas des prix démentiels, ou que ce soit accessible pour tous, comme on a les codes pour la guitare, pour le violon, pour tout. Et que toutes ces connaissances-là, quoi, en fait. Et qu'un didgeridoo, c'est pas juste on creuse et puis on recolle et puis ça sonne. C'est qu'il y a vraiment des lois qui régissent ça, il faut bien les trouver. Pourquoi créer cette gamme? Ben voilà, c'est que moi j'ai envie d'avoir ça et puis que ça permette Oui, on m'a dit en stage que j'étais un peu langue de bois ou langue politique un peu, qu'ose pas dire le truc. Donc maintenant j'essaie d'être un peu plus cash pour qu'on me comprenne vraiment et que tant pis si ça plaît pas trop à des gens. Donc j'ai décidé d'être plus cash. Pourquoi créer une gamme? Ben, c'est parce que voilà, pour avoir des instruments qui me correspondent avant tout et que je sois content en fait de pouvoir jouer sur ces didges-là et de pouvoir les diffuser, tout ça. Mais le premier truc, c'est très égoïste, c'est de me faire des didges pour moi et que j'arrive à pouvoir comprendre ces trucs-là pour pouvoir me fabriquer des didges que j'ai envie et que ces didges qui me conviennent, ben, je pense que s'ils me conviennent, ils conviendront à pas mal de gens qui aiment mon jeu et tout ça, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qui te motive dans ce nouveau projet? Ben voilà, tout ce truc-là. Tu ne trouves pas ce que tu souhaites sur le marché? Ben non, ça me gonfle. Une innovation particulière, tu me motives peut-être. Non, je trouve pas ce que. En fait, s'il y a des bons DJ individuellement comme ça, mais c'est quand même compliqué de. Quand tu atteins un certain niveau, de trouver des DJ qui correspondent. C'est extrêmement rare. Et voilà, je préfère. Ça n'enlève pas le fait que je pourrais jouer d'autres DJ et tout, hein, bien sûr. Mais ouais, je préfère développer des DJ pour moi qui suivent mon jeu, quoi. L'innovation particulière qui me motive, ouais, c'est deux choses. C'est le fait que le didgeridoo soit démontable. Alors pour le moment, il n'aurait pas plusieurs notes, il serait juste démontable. Ça paraît bête, mais en fait, j'ai pu l'amener, par exemple, le prototype l'année dernière à Taïwan. Quand j'ai pris l'avion, c'était quand même très agréable de l'avoir avec moi dans l'avion et qu'il n'y ait aucun problème par rapport à quand je suis allé en Russie ou dans d'autres pays où je devais le mettre en soute et c'est quand même assez flippant. Et puis, ces trucs tout bêtes, quoi, c'est que quand tu bouges beaucoup, tout le monde connaît ça, tu vois le DJ dans la voiture, c'est toujours un peu chiant à caler et tout. Que là, c'est démontable, ça tient partout, quoi, dans le coffre, tout ça. Donc ça serait la première chose que j'ai pu essayer, tester un tout petit peu, qui est très, très, très confortable. Ça veut dire que quand tu le transportes, tu peux aussi le transporter sur le dos comme un sac à dos, tu vois, pas juste avec une lanière à gauche. J'ai remarqué que moi, j'avais une épaule qui avait du mal à se détendre parce que j'ai toujours l'épaule de côté droit, par exemple, pour le ditch. Et donc ça peut créer des soucis un peu dans le dos et tout, qui sont pas très sympas. Ça, et puis après l'embouchure démontable, si on arrive à le faire, ça c'est encore entre guillemets, quoi, c'est si on arrive à faire cette embouchure. Je fais une parenthèse sur l'embouchure, c'est pas tant le diamètre. Le diamètre, oui, c'est un détail en fait sur ce qu'on peut changer de l'embouchure. Je vois là, tu vois qu'il y a l'avantage de changer d'embouchure, ce que dit J'aime, il y a aussi Adrien, tu parles aussi du diamètre et tout. C'est un détail, le diamètre, et c'est ce que la plupart des fabricants n'ont pas compris. Et c'est ça qui m'agace avec les fabricants. C'est qu'en fait, le diamètre, c'est pas si grave. C'est surtout après comment l'embouchure va modifier la colonne d'air du litch. C'est ça qui va transformer le truc. Et c'est que l'embouchure, c'est l'endroit le plus important quasiment du didgeridoo et ça n'a pas été recherché. Et c'est la seule pièce, vraiment, hein, si vous regardez l'évolution du didgeridoo, c'est la seule pièce qui n'a pas évolué. Les embouchures en cire ont été remplacées en bois, et puis voilà. Mais on n'a pas cherché la forme. Il y a William Torrent qui a fait des petites recherches, mais qui, voilà, c'est des premières ébauches. C'est beaucoup, beaucoup de boulot, hein. Mais ça, normalement, c'est le boulot des fabricants. Mais ce n'est pas fait, parce qu'en fait, les changements sont fins. C'est vrai, entre deux différentes embouchures avec des formes intérieures différentes, le changement est fin, mais il est vraiment présent, quoi. Et ça, il y a vraiment tout un panel à faire, un panel de recherche à faire, et c'est énorme, énorme. Je suis sûr que c'est vraiment c'est le dernier point du didgeridoo qui a pas été recherché, vraiment. Voilà. Alors, est-ce que cette gamme sera destinée à n'importe quel type de joueur débutant ou confirmé? Alors, tout dépend du budget du débutant ou du confirmé. Généralement, quand tu es confirmé, tu es plus à même de dire, ok, je mets un paquet de sous dans un didge et puis je vois, tu vois, et puis je me fais plaisir et tout. Quand tu es débutant, tu vas pas quand même mettre une grosse somme directe. Donc, ça serait quand même plus pour des joueurs qui sont pas débutants, intermédiaires ou confirmés, mais pas débutants, à moins qu'il y ait des débutants qui se fassent plaisir et ça, c'est cool, quoi. Mais voilà, c'est pas forcément le but, parce que la gamme, tu poses la question du prix après, la gamme, elle sera autour de 1000, plus de 1000 euros, ça c'est sûr. Certainement vers 1004, 1005. En fait, tout simplement, pour être transparent au niveau des prix, c'est que le luthier avec qui je travaille, lui, par exemple, pour faire tourner sa boîte, il peut pas sortir un didgeridoo en dessous de 900 euros. Ça, c'est minimum, minimum, minimum. C'est s'il est ultra efficace, quoi. Parce que c'est les charges en France et c'est l'artisanat en France. Et que ça met du temps de fabriquer un didgeridoo. Et après, tu as la housse qui se rajoute. Il faut rajouter au moins 100 euros. Donc, ça fait 1000. Et après, moi, je vais prendre une marge dessus. Je ne vais pas prendre une énorme marge. Mais c'est surtout après, si je veux le vendre, le truc. Après, c'est que si tu veux le vendre, par exemple, à Didgeridoo Passion ou dans d'autres magasins, il faut qu'eux, ils aient une marge. Par exemple, n'importe quel magasin, si tu mets en vente, il prendra au moins 30% du prix final. Donc, c'est-à-dire que sur 1005, il te laisse 1000 et il prend 500. Et c'est les tarifs, c'est normal parce qu'en fait, ils ont des charges aussi. Et puis, c'est comme ça qu'est fait l'économie, en tout cas en France. Mais même en Australie, ils prendraient 30% de marge. C'est les bases en fait, c'est les normes que tout le monde est d'accord de respecter si tu veux avoir une entreprise qui tourne. Donc ce serait ça, en fait, ça faudrait voir. Mais tu vois, si on laisse chez Digital Innovation, moi je me prends zéro, sachant que je passe du temps quand même dans la recherche et développement pour la colonne d'air, tout ça, pour tous les trucs. Bref, voilà, c'est un peu ça. Et c'est pour ça aussi que je parle souvent des tarifs que les fabricants de Digital mettent, et je pense qu'ils se sous-payent. Mais le souci, c'est que si tu veux vivre à peu près normalement, c'est-à-dire avoir pas un SMIC ou moins d'un SMIC pour vivre, et que tu veux vendre tes diges. Alors moi je suis un intermédiaire, là on est deux à bosser, donc il faut qu'on se paye les deux, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut mettre un certain tarif, sinon en fait, sinon tu vis pas quoi, ou tu galères. Et dans le monde du dige, moi j'ai envie de dire arrêtons de galérer, quoi, mettons des tarifs qui se respectent en fait. Je me le dis aussi à moi, hein, tu vois, voilà, voilà, je pense qu'on a tous un gros travail à ce niveau-là à faire. Je pense que tout, beaucoup, beaucoup, une grosse, grosse partie des didgeridoo sont sous-évalués au niveau des tarifs. Ce qui est dommage pour l'acheteur, hein. Moi aussi j'achète des didgeridoo. Mais je pense que c'est une réalité. Voilà, pas tous, mais quand même. Comment est-ce que vous êtes rencontré avec Cyprien? Alors Cyprien, c'est l'apprenti de Sandro. Sandro, c'est vraiment lui qui tient l'entreprise. Et ben, c'est ça. Moi, j'habitais au-dessus de chez lui à la Croix-Rousse. En gros, quoi, il habitait dans la rue juste à côté, quoi, son atelier. Et on m'avait dit, oh, mais il y a quelqu'un qui fabrique un luthier, quoi, un ébéniste qui fabrique des instruments bizarres, tout ça, tu devrais aller voir. Et moi, je cherchais quelqu'un. Et quand je suis passé effectivement devant chez lui, il avait la porte de l'atelier ouverte et il était en train d'ajuster un corps des Alpes. Et on a commencé la conversation comme ça. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Quelle essence pensez-vous utiliser? Tu comprends pourquoi je fais un retour audio, hein? Ça m'aurait pris une plombe d'écrire tout ça. Je suis déjà à 12 minutes. Quelle essence? C'est noyer et érable pour le moment. Ce qu'on a choisi, c'est des essences locales. On ne veut pas prendre dans les bois exotiques vu l'état de la planète. Et on veut vraiment miser sur du local. Il fabrique déjà des didges ou pas du tout? Non, il ne fabrique pas de didges. J'ai pas voulu justement un fabricant de didges parce que au moins lui, il sait rien du tout. Et du coup, on peut y réfléchir à deux. Et il a son expérience du corps des Alpes qui complète bien. Combien de temps je dors la nuit? Ouais, bah ça j'ai mes phases, hein. Des fois je dors beaucoup, puis des fois pas du tout. Là en ce moment je bosse pas mal. Et puis des fois, là par exemple après la formation, je me suis pris vraiment au moins un mois où j'ai tout lâché. Vous avez dû remarquer ça. As-tu déjà des idées de prix? Ouais, non, ça c'est bon. Hop. Tu ouvriras un local de vente, tu passerais par un revendeur, comment tu vois les choses? Non, pas de local de vente parce que ça c'est chiant. J'ai pas envie de m'enfermer dans une boîte et attendre des clients. Ça m'ennuie ça. Quoi, dans une boîte, je veux dire, tu vois, c'est comme ça que je vois le truc. Mais Greg, par exemple, avec Digital Education, il le fait chez lui. Il est bien chez lui. Il gère pas mal de ventes aussi par Internet. Moi, ça serait des ventes surtout par Internet. Et puis, j'aurais toujours un exemplaire avec moi en stage, je pense. En tout cas, j'aurais toujours mon DJ en stage plus un exemplaire à vendre où les gens pourraient essayer. Et puis après, l'idée, c'est quand même que ça se vende quand même pas mal. Et que les gens puissent essayer des didges que d'autres ont achetés. Ah ouais, les coupures d'électricité là, t'amènent à réfléchir ta façon de vivre, de te préparer d'une façon ou d'une autre. Ah non, non, j'ai lâché un peu avec la collapsologie parce que sinon ça m'handicapait complètement pour vivre. Ben dis donc, mais tu poses plein de questions encore. La collapsologie, non, ça m'a complètement figé. Et donc, non, j'ai lâché. J'ai vraiment lâché. Il adviendra ce qu'il adviendra, mais moi, j'ai envie de continuer à vivre. Donc, je fais ma vie. Ma copine est là, elle est sur Paris. Et on va garder un pied dans la Drôme, un pied sur Paris, certainement. On ne sait pas trop. Mais non, je vis tout à fait normalement. Je fais gaffe, tu vois, tout ça. Même pour Wacademy, là, je commence à voir pour chercher des serveurs qui soient plus écolos, parce que ça consomme beaucoup de CO2, en gros, hein, quoi, d'empreinte carbone. Un site internet, donc ça c'est ma manière un peu d'agir, mais je continue comme ce que j'imagine développer Wacademy, sinon je vis dans la peur et je me sclérose, donc c'est hors de question, de toute façon ça me va pas, sinon je vis mon effondrement complet. Et je sais pas en fait avec le recul comment va se passer l'effondrement, et je pense qu'il y aura que c'est déjà là et que voilà en fait, c'est déjà l'effondrement pour plein de monde en fait, et voilà, on verra quoi. Tu te vois comment et où dans 10 ans? Aucune idée. Je réponds direct, je sais pas. Un livre à partager? Pourquoi non, je comme ça. Oui, d'accord, ça sert à quoi la vie? Tu me racontes une histoire. Ouais, d'accord. Bon, ben je lâche. Je m'arrête là, tu sais. Et je veux pas un livre à partager. Ah si, j'ai bien aimé Conversation avec Dieu. Je trouve vraiment super beau ce livre. Voilà, allez, à la prochaine. Et les deux questions, hein, je vous les raconte la prochaine fois. Allez, salut. Bravo à ceux qui ont réussi à m'écouter pendant 15 minutes. C'est beau. Bravo pour votre pugnacité, les gars et les nanas. Allez, à bientôt.